Bonjour à tous, bienvenue au balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. La Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales qui offre également une panoplie de services dans la communauté. Cette année, nous célébrons nos 40 ans d'existence et pour l'occasion, nous avons créé un balado composé de 5 épisodes qui aborderont différents thèmes reliés à la violence conjugale. Sans plus tarder, notre premier épisode accueille une invitée spéciale qui a accepté notre invitation à venir témoigner de son parcours en tant que survivante de violences conjugales. Vous l'avez peut-être connue en visionnant le documentaire « Dompter son dragon » ou grâce à son légendaire tatouage crânien de dragon. Je précise qu'elle est connue internationalement, elle est mannequin Didier, autrice du livre « Sois-toi, t'es belle », conférencière et aujourd'hui survivante de violences conjugales. Elle s'implique depuis plusieurs années auprès de la Dauphinelle et de notre cause en violence conjugale. Nous remercions Eve Salvaille d'avoir accepté notre invitation à notre balado. Bonjour Eve.
Allô.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Oh, ça va tellement bien.
Très bien. Merci. Es-tu prête pour faire cette belle discussion avec nous?
Oui, j'ai chaud. Je suis nerveuse.
Il n'y a vraiment aucune raison d'être nerveuse aujourd'hui. En fait, on t'a invité aujourd'hui pour le premier épisode de notre balado de la Dauphinelle. Nous célébrons nos 40 ans cette année et on essaie d'aborder un peu les plus grandes thématiques en violence conjugale. Et on s'est dit pour commencer, on va entrer dans le cœur du sujet. Donc, la crise, le moment où une personne est dans une relation où il y a de la violence conjugale, et ce fut ton cas.
Oui, Seigneur. Oui, mais psychologique, pas physique. Tu m'en avais parlé une fois d'une autre violence, de donner des coups sur les murs, des choses comme ça. Donc, il y avait ça aussi qui était présent dans mes relations. Là. Mais beaucoup de violences psychologiques, beaucoup de contrôle. C'était ça, je pense, qui était difficile.
Comment est-ce que tu disais que la relation a commencé?
Toutes ces relations-là qui sont, pour moi, qui étaient toxiques, sont toutes des photocopies l'une de l'autre. Puis on dirait que quand je rencontrais cette personne-là, bien qu'il y avait 5000 autres personnes dans la salle, je la reconnaissais parce que je reconnaissais mon abuseur, mais dans ma tête à moi, quand je la reconnaissais, je ne savais pas si c'était de la violence, tout ça, puis que j'étais dans un pattern de relations toxiques. Mais quand je la reconnaissais, j'avais l'impression de la connaître depuis des années. Donc, il y avait une espèce de rapprochement là-dedans puis qui faisait en sorte que cette passion-là, tu sais, les narcissiques pervers sont très charmants. Donc, moi, c'était toujours des narcissiques pervers, puis elles étaient très charmantes et réussissaient à me... Oh mon Dieu, j'étais la femme la plus belle au monde, la plus extraordinaire, la plus... Puis ils me traitaient comme une reine, comme j'avais jamais été traitée avant.
Mm-hmm. Puis est-ce que tu le savais, parce que tu me dis que tu étais capable de la reconnaître de loin, que c'était la photocopie de la personne précédente?
Non, c'est ça. C'est que je reconnaissais mon abuseur dans le sens que je reconnaissais que cette personne-là, je la connaissais. J'avais l'impression de l'avoir déjà connue dans une vie antérieure. Mais en fait, maintenant, avec le recul, puis maintenant que je sais que tout ça, c'est de la violence, je me rends compte que je reconnaissais mon abuseur. C'est ça que je connaissais. Mm-hmm. C'est ce que je connaissais mieux, de toute façon. C'est quelqu'un qui me maltraitait parce que, selon moi, je ne méritais pas mieux que ça.
Mmh. Tu me dis violence psychologique, violence verbale. Qu'est-ce que tu vivais exactement?
Bien, tout plein de choses dont maintenant on a les textos. Là, c'est dès que j'arrivais au travail, mettons, j'avais une job que j'avais à toutes les années à Los Angeles qui était très prestigieuse, mais très demandante. J'avais pas de temps quand j'arrivais de l'aéroport. C'était très, très demandant. Puis je le disais à ma femme à ce moment-là, même si tu essaies de m'appeler, je pourrais pas te parler pendant je vais être à Los Angeles. Mm-hmm. Mais c'est ce moment-là qu'elle choisissait pour m'appeler. Puis là, je répondais parce que je me disais, mon Dieu, il doit y avoir quelque chose qui se passe mm-hmm. à la maison de tragique. Je me faisais engueuler parce que je n'avais pas répondu. Donc, il y avait cette espèce de contrôle-là. Puis moi, ça dérangeait mon travail ou cette personne-là encore, cette femme-là, elle allait à mon travail puis elle parlait à mes supérieurs puis elle disait des choses pas fines de moi à mes supérieurs ou elle faisait des actes comme prendre de la drogue dans les clubs où est-ce que je travaillais puis quand elle se faisait pogner, elle le faisait devant tout le monde. Ben là, elle disait, ben, tu peux pas me mettre dehors, je suis avec la DJ. Mmh. Fait que, tu sais, tu veux pas que la musique arrête, fait que tu laisses la fille là, mais soudainement, j'avais plus mes jobs. Je comprenais pas, puis elle me dit, ah non, on n'a pas besoin de toi finalement vendredi. Ah, puis la semaine d'après, la même chose, puis après, puis là, je me suis rendu compte que c'est à cause de ça. Mais tranquillement, c'est insidieux, cette prise de contrôle-là. C'est, on passe de charmeur, je te donne des fleurs, je te donne des cadeaux, je te garde, je t'appelle la plus belle femme du monde, je vais toujours te respecter, des promesses et tout. Puis insidieusement, il y a quelque part là-dedans où est-ce qu'on se retrouve des mois, des années plus tard, puis là, on est en relation extrêmement violente, puis on s'en est pas rendu compte. Mmh. Tu te sens niaiseux. Puis quand ma femme, à ce moment-là, me disait que j'étais conne, puis que je valais pas de la merde, puis que j'allais pas être capable de survivre à l'extérieur de la sans elle, en fait, ben je le croyais, parce qu'à force de se faire dire la même chose tout le temps, on arrive à y croire.
Mm-hmm. Que tu viens de décrire, c'est vraiment l'illustration typique du cycle de la violence conjugale. Hein. On parle de 4 phases, donc la phase où vous marchez un peu sur des œufs, on n'est pas trop certaine de comment agir pour éviter la violence. On fait attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Puis après ça, il y a l'agression. Donc là, dans ton cas, c'était beaucoup de harcèlement, beaucoup de manipulation aussi de ce qu'elles entendent, de te faire perdre du travail aussi parce qu'elles consommaient des drogues. Et puis après ça, il y a souvent la phase de la justification, où la personne va expliquer ses comportements, va expliquer que c'est pas de sa faute ou que c'est de sa faute à toi.
C'est ça.
Est-ce que tu as vécu cette phase-là? Comment ça s'est présenté?
Oui, c'était tout le temps. « Ah, ben je suis malade. Ah, ben j'étais SPM. Ah, mais c'est parce que mon père va pas bien. Ah, c'est parce que ma relation, parce que ma mère m'a abandonné. » Il y avait toutes sortes de raisons. Puis, il était tellement bien justifié. C'est des personnes très intelligentes, moi, avec qui je sortais. Les menaces pervers, mm-hmm, avec qui j'ai sorti, c'est des personnes boves avec un QI extrêmement, mm-hmm, haut. Mais il y a quelque chose de manipulateur là-dedans, parce que c'est ça. Non seulement, maintenant, je repense à ça, puis je dis, Caroline, je suis pas si cocotte que ça d'avoir cru toutes ces affaires-là. Over and over, je ne l'offrerai plus, ça n'arrivera plus. Mais, mm-hmm, combien de fois qu'elle m'a dit ça en 6 ans? Puis je suis restée là pareil.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, ça arrivait toujours que c'était de ma faute. C'est toi qui as commencé, c'est toi, je t'ai dit de ta-ta-ta, puis je t'ai dit de faire attention, puis t'as élevé la voix, puis t'as fait telle affaire. Fait qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, à force de se faire dire la même chose, mm-hmm, c'est un lavage de cerveau, on commence à penser à la fin de ces relations-là, de toutes ces relations-là, j'avais l'impression d'être folle. Parce que je me disais, me semble que j'étais une personne intelligente, me, mm-hmm, semble que ça fait pas de sens que puis en plus je suis une personnalité connue, donc moi je suis acclamée à l'extérieur de la maison, mais j'arrive à la maison puis je vois pas de la merde. Qui a raison? Est-ce que c'est les fans ou c'est ma conjointe? On aurait tendance à penser que c'est ta conjointe, c'est elle, mm-hmm, qui te connaît le mieux.
Mais dans ton cas, qu'est-ce que tu pensais? Quand t'arrivais à la maison, tu te faisais traiter mal. C'était quoi ta pensée à ce moment-là?
Mais je lui ai dit à un moment donné à cette femme-là en question que mes fans me traitaient mieux qu'elle. Ouh, ça a mal passé. C'était un non catégorique. Va puis là. Mais moi, j'ai appris à me taire. J'ai appris à filtrer ce que je fais puis ce que je dis. Puis maintenant, je trouve que c'est le défi, le numéro un, c'est dans une relation saine dans laquelle je suis, c'est de faire attention à ne pas filtrer. Puis, mm-hmm, faire attention à tous ces comportements de défense. C'est des mécanismes de défense qui m'ont sauvée dans mes relations, mais que j'ai plus besoin maintenant. Puis c'est de me défaire de ces mécanismes-là, parce que ça fait tellement d'années que je les utilise qu'ils viennent seuls, ils montent tout seuls. Donc, il faut vraiment que je me watch puis je dise, OK, est-ce que c'est un mécanisme de défense que j'ai appris pour ne pas starter, tu sais, pour pas que ça déraille puis qu'elle casse tout dans la maison puis que je me retrouve à être vraiment comme misérable puis en flashback, puis, mm-hmm, accroupie entre la toilette puis avec la porte barrée, puis elle qui bâche dans la porte, parce que, mm-hmm, c'est arrivé souvent. Et c'est quand même épeurant quand t'essayes d'arrêter la chicane puis que la personne te suit dans la rue puis écrit devant tout le monde. Moi, je reviens à ça, je suis connue.
Oui.
J'ai, j'ai quand même un peu d'égo là. Il me semble que c'était embarrassant, c'était humiliant de me faire crier après comme ça dans la rue, puis les gens se retournent, les gens arrêtent en voiture, puis sont comme « qu'est-ce qui se passe là? » Eve Salvaille est en train de se faire suivre par une bonne femme qui crie. Puis j'ai l'air de la pas fine dans la situation aussi. Puis c'est ça qui est confus dans ma tête, c'est qu'à ce moment-là, je me demande « c'est-tu moi la méchante? C'est-tu moi? » Parce qu'elle me dit toujours que c'est à cause de moi que ça arrive, donc c'est elle la victime.
Oui.
Ou c'est moi?
Mais il y a une des raisons pour lesquelles les victimes vont souvent rester dans une relation, parce que tu en parlais un peu plus tôt de pourquoi c'est resté là-dedans, il me semble qu'elles étaient intelligentes, qu'elles n'avaient pas passé là-dedans. C'est la phase, donc on a parlé de la phase de la tension, de la crise, de la justification, mais il y a aussi la quatrième phase, qui est la phase de la lune de miel, où tout va soudainement bien, où l'agresseur, dans ce cas-ci, ton ex-amoureuse, est parfaite, te fait très attention à toi, te donne des cadeaux, te fait des promesses. Est-ce que tu as passé par cette phase-là aussi?
Très souvent.
Puis qu'est-ce qu'elle faisait exactement pour te garder dans cette relation-là?
Elle m'achetait des affaires, parce qu'elle avait fait en sorte que j'avais plus d'emploi, donc je suis passée d'un salaire très, très élevé à un salaire qui est vraiment en dessous du seuil de la pauvreté, parce qu'elle a fait en sorte que j'ai tout perdu mes jobs. Ça faisait partie du contrôle, je me suis aperçue plus tard, c'est... Qu'est-ce que tu fais si tu pars quand t'as plus une scène, puis t'as plus d'emploi, puis tous les gens, ils veulent plus t'engager parce qu'elle est là. Fait que... C'est ça, il y avait ça, fait que quand je revenais dans la relation, ben je me faisais gâter, j'avais elle m'achetait des affaires farmaneuses, puis c'était un charme. Elle revenait à ce qu'elle était au départ dans la relation. Puis c'est ça que je cherchais quand je restais avec elle, c'est que je voulais revenir à cette personne-là qui m'avait charmée au départ. Puis elle revenait à ça, mais on dirait que ça durait de moins en moins longtemps, cette phase-là, qu'elle était charmante, qu'elle était douce, qu'elle était gentille, puis attentionnée envers moi. Puis quand tu as été oppressée à quelque part, puis que tu n'as pas dormi pendant longtemps, tu as pleuré beaucoup, tu es vraiment à bout, mais j'étais tellement fatiguée, puis à bout de souffle à la fin, que c'est ça, il y a un certain level, un certain niveau de confusion dans ma tête, puis j'en suis venue à être tellement fatiguée de me battre, puis de me chicaner, puis nous, c'était aux 2 jours. J'ai calculé que c'était un minimum d'aux 2 jours. Fait qu'on avait 2 jours de lune de miel, entre guillemets, qui était de plus en plus courte, puis moi, j'étais de plus en plus fatiguée, de plus en plus physiquement complètement finie, là. Fait que c'était... plus difficile pour moi de penser logiquement, d'amener une espèce de recul face à ce qui se passait. Puis on en parle à des amis, mais on se sent un peu humilié parce que je me sens nounoune d'être là, dans cette situation-là. Puis je me demande à mes amis, c'est-tu moi? C'est-tu?
Est-ce que le fait que que tu es connue, en fait, surtout avant, tu étais très connue, tu me dis que t'es fan, tu avais ta carrière en plein essor, est-ce que le fait que t'avais cette belle carrière-là et que t'avais un peu tout sur un plateau d'argent, rendait ça plus difficile pour toi de vivre cette violence-là?
Ben oui, parce qu'on est tout seul, hein, quand on est une personnalité connue, ben, on voyage tout seul, on arrive, oui, on est avec 30 000 personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur le stage, mais c'est pas des personnes, à la fin du compte, je vais revenir à l'hôtel toute seule, donc toutes mes nuits sont toutes seules, fait que en étant dans une relation, bien qu'elle soit toxique, au moins j'ai quelqu'un avec moi, sauf que ce quelqu'un-là, j'appréhendais à la fin de revenir à la maison. Je voulais juste rester au travail. Parce que sur le stage, ben, elle n'avait pas ce pouvoir-là de me descendre puis de me faire sentir comme moins que rien, tu sais.
Puis ta place sécuritaire, c'était le travail. Et là, tu nous dis qu'elle t'a enlevé cette place-là en plus parce qu'elle te faisait peine, ton travail.
Ouais.
Je sais que la plupart... En fait, quand on parle de violence conjugale, on va souvent parler de la violence de l'homme envers la femme.
Oui.
Toi, c'est dans une relation entre deux femmes.
Oui.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques plus propres à une relation entre deux femmes? Est-ce qu'il y a des formes de violence peut-être qu'on observerait plus dans une relation entre deux femmes?
Bien, je m'excuse de dire ça, mais les filles, on est intelligentes puis on est vipères en tabarouette. Je veux dire, un gars, c'est un peu... en tout cas, ma perception des garçons, quand j'ai eu des relations avec eux, j'ai trouvé un peu nono, un peu dodo bird, là, tu sais, c'était pas pensé. Nous, on est vraiment comme on calcule, puis on pense, puis nos affaires sont vraiment comme... Quand on décide de foncer puis de donner un coup, c'est qu'il soit psychologique ou verbal ou autre, il est calculé en tabarouette, là. On y a pensé, tu sais, c'est prémédité, puis... Mais c'est ça, c'est plus... Je pense que du côté verbal, les femmes sont vraiment très, très bonnes à faire mal.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'a pas physiquement le pouvoir de se défendre comme ça. Puis les mots, c'est des choses qui restent. Un bleu, ça s'en va.
Mm-hmm.
Mais pour moi, les mots, ça fait mal. Tu sais, je m'en rappelle encore de toutes les affaires que j'ai été... qui m'a appelée mm-hmm. dans le passé. Mais c'est difficile. Il y a un exercice que je fais souvent, puis grâce au anonyme, mm-hmm. c'est d'ailleurs ma nouvelle blonde qui m'a enseigné ça, c'est de trouver 5 choses dont je suis fière.
Mm-hmm.
Donc, quand je vais dans cette zone noire-là, ben elle me dit, essaie de trouver 5 choses. Si t'es pas capable, 5, trouve-en 3. 3 mm-hmm. choses dont t'es fière, que t'as été patiente, que des petites choses, mais des petites victoires à travers l'expérience sur laquelle je me tape sur la tête mm-hmm. présentement, c'est quoi les 3 ou 5 choses dont je suis fière?
Okay.
Ça aide beaucoup, ça, je trouve.
Mm-hmm. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver des choses?
Non. C'est ça, on dit, c'est un programme des 12 étapes, donc il y a une des étapes qu'on fait un inventaire personnel, puis on sort 12 défauts de caractère qu'on aimerait ne plus avoir. Puis c'est très facile, ça, trouver 12 défauts de caractère. Mais pour ces 12-là, il faut en trouver 24 dont on est fier, mm-hmm. des personnalités, des traits de notre personnalité dont on est fier. Pas personnalité, mais des traits de notre personne.
Mm-hmm.
C'est tough en tabarouette.
Mm.
Et même en trouver un, je suis pas sûre que je pourrais te dire qu'est-ce que...
On va parler un peu, on va aborder brièvement comment ça a été pour toi de trouver une nouvelle relation par la suite, mais j'aimerais revenir à cette relation violente-là. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était une relation violente?
Bien après, parce que j'ai tendance à minimiser mes expériences qui sont plus mauvaises. Surtout quand il y a une autre personne qui est inclue là-dedans, parce que si c'est une mauvaise expérience dans le sens que j'ai fait un accident de voiture, je peux pas blâmer tant de choses que ça, mais quand ça a trait à une autre personne, j'ai tendance à minimiser puis à trouver ça bien petit, surtout dedans. On dirait que je suis trop proche du canevas. Fait qu'après, quand je pars de la relation, là, je me rends compte, tout d'un coup, je repense à « Hey, c'est vrai, après une semaine, j'avais tous les signes étaient là.
Mm-hmm.
Tous les signes étaient là, c'était très clair. Maintenant, je le sais. » Mais dans la relation, après une semaine, je suis comme, ben non, c'est à cause qu'il pleuvait ce jour-là. Voyons, le vent était de l'ouest à l'est. C'est normal, là. C'est mm-hmm. pour ça, là.
Parce que c'est ça qu'elle te disait aussi.
C'est ça. Fait qu'on y croit parce que la personne a été tellement charmante au départ qu'on veut ça. C'est comme le Walt Disney Dream, là. Mm-hmm. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me retrouve, waouh, c'est la relation parfaite. Je peux pas croire, toutes mes amies ont pas ça.
Mm-hmm.
Puis là, tout d'un coup, non, c'est pas vraiment ça.
Puis comment que la fin de la relation s'est déroulée?
Pour cette dernière-là, il a fallu que je divorce. J'étais mariée. Puis dans le divorce, elle voulait des choses. Elle m'envoyait un document de 27 pages de choses qu'elle voulait, dont un arbre qui avait été planté il y a 2 ans. Puis ça a fait qu'elle savait où aller donner un petit coup de poignard.
Oh.
J'étais vraiment fâchée. Mm-hmm. Écoute, ça m'a fait fâcher. Puis c'est... Je pense que je lui ai fait mal, puis c'était sa manière de se venger envers moi. Après ça, il y a eu beaucoup d'appels, il a fallu que je bloque tout les emails, les appels, les Facebook.
Mm-hmm.
Il y a eu des posts sur Facebook, c'est facile, hey, je suis connue, oui. Fait que tu fais un post sur Facebook, Eve, telle affaire, puis tu dévoiles des choses que les gens savent pas.
Et ce que je comprends, c'est qu'il y a eu de la violence en post-séparation aussi.
Oui, oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est là que ça a été le pire. C'est la post-séparation. Puis j'aurais aimé savoir que j'avais peut-être le pouvoir d'avoir de l'aide avec les ressources. Je ne savais mm-hmm. pas qu'il y avait des ressources pour ça. Mais moi, j'ai été avec les fraternités, là. Mais j'ai changé d'avocat, j'ai été avec Goldwater, ce qui a changé mm-hmm. beaucoup de choses. Mais ça a aidé énormément. Mais tu sais, ça aussi, c'est pas rassurant. T'as pas de maudite scène, tu t'en vas avec Goldwater. Je veux dire, elle coûte cher. Mm-hmm. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
Oui, effectivement. Toi, t'es on le répète encore et toujours, mais tu es connu, donc oui. On aurait tendance à croire que tu avais tous les moyens du monde pour te sortir de la situation.
Moi, j'ai tout sur un plateau d'argent, dans la tête du monde, dans le regard du monde. Je suis riche, je suis belle, j'ai toutes mes données gratuitement. Tout m'arrive comme... C'est comme j'ai pas mal, j'ai pas de problème, j'ai pas... Puis c'est correct. C'est une vision que même moi, j'ai envers d'autres célébrités, tu sais. On s'imagine qu'on est invincible devant tout ça. Mais en fait, c'est ça, ce qui est triste puis difficile, c'est la solitude dans tout ça, parce que je peux pas aller voir quelqu'un, puis je peux pas mettre ça sur mon Facebook. Le monde va dire, ben non, t'es Eve Salvaire, t'es riche, t'es belle, t'es fine, puis t'as tout.
Les autres, ils me disent que tu connaissais pas
ça
les ressources.
Pas pour nous. Je savais même pas que ça existait. Tu me dis ça, j'étais comme, hé, sérieux, il y a des ressources? Wow!
Mais si à l'époque, tu t'avais su que ça existait, la question est-ce que t'aurais... pris ce devant-là d'aller rechercher de l'aide.
Bien, c'est ça, c'est de demander de l'aide. C'est dur aussi. C'est dur pour l'ego, c'est dur. On n'est pas habitué. D'habitude, je veux dire, moi, je suis une femme qui je me suis toujours arrangée. J'ai toujours été capable. Fait que là, il faut demander de l'aide. Ça veut-tu dire que je suis moins que? Est-ce que je suis faible? Tu sais, je suis pas capable de m'arranger toute seule. Là, il faut que je demande de l'aide. Fait que je suis comme... Fait que ça, c'est dur, ça a pris du temps, mais une fois qu'on l'a fait, une fois, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que j'ai demandé de l'aide la première fois, je me suis rendu compte que la main qui m'était tendue s'est pas retirée. La personne m'a sorti de l'eau.
Est-ce que ça a été difficile pour toi d'embarquer après dans une nouvelle relation?
Oui, moi j'avais décidé d'être vieille fille. C'était fini les relations parce que j'avais ce pattern-là. Je retournais toujours dans des relations toxiques, puis je m'en rendais pas compte. À chaque maudite fois, après quelques mois, j'étais comme « Ah, fudge, encore une autre. » Donc, d'avoir confiance, je vais t'avouer que même aujourd'hui, je fais... Tu sais, je vais mettre le feu dans le salon juste pour voir si elle sort l'inspecteur ou si elle rajoute de l'essence dessus. Je sais pas, là. On sait pas. J'ai tendance à pas vouloir croire que je mérite d'être dans une relation saine. Fait que quand elle me dit qu'elle m'aime puis qu'elle me respecte, j'ai tendance à aller vers « Ben non, c'est pas vrai, ça se peut pas. » C'est triste, hein?
C'est triste, mais dans ce cas-là, elle va essayer de te convaincre, t'imagines?
Oui, elle est extraordinaire, ma blonde. Ça a pas de maudit bon sens d'être dans une... J'en viens pas que... Je sais pas ce que j'ai fait de correct à quelque part, là, mais...
Et félicitations.
Merci.
Puis, pour conclure, parce qu'on a quand même une certaine limite de temps, mais quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est possiblement dans une relation où il y a de la violence conjugale, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Ben, de demander de l'aide, parce que c'est pas sur mes épaules à moi de... En fait, moi, j'avais pris la décision de mourir parce que je voyais plus d'autres issues. J'ai vraiment tout essayé, tout essayé ce que je pensais qui existait. Donc, je savais pas à ce moment-là qu'on pouvait demander de l'aide. Puis c'est tellement extraordinaire de pouvoir se sortir de tout ça puis de repenser à où j'étais il y a 4 ans, où j'étais il y a 5 ans, puis de voir tout le progrès que j'ai fait.
Ben écoute, Eve, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui,
merci
de ta participation
là.
Et de ton partage. Le message en fait qu'on voulait vraiment partager aujourd'hui, c'est que peu importe dans quelle relation vous êtes, la Dauphinelle est là pour vous, SOS Violence Conjugale est là pour vous également. Merci beaucoup d'avoir écouté le balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. Nous espérons que cela vous a plu, que cela a suscité des questionnements chez vous, que vous allez le partager avec votre entourage. Si jamais vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes dans une situation de violence conjugale, n'hésitez pas à contacter notre ligne d'écoute, Contactelle, au 438-522-9264, par téléphone ou par texto, ou encore SOS Violence Conjugale. En cas d'urgence, n'oubliez pas de toujours faire le 911 immédiatement.